Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le démarrage de l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Écrire une série sur la Deuxième Guerre mondiale n'est pas écrire une série comme les autres. 8 ans de diffusion, 7 saisons, 6 années de guerre, 1945, la guerre s'achève. L'histoire de la série s'arrête. Mais l'histoire, avec un grand H, elle, ne s'arrête pas. Impossible de lâcher les habitants du village français sans les projeter dans leur devenir. Daniel Larcher, Raymond Schwartz, Suzanne Richard avaient un passé, auront-ils un destin? Tout l'enjeu de ces derniers épisodes, c'est la mémoire de chacun. Et la mémoire de tous, la mémoire qui travaille au corps, toute une société, ses valeurs, ses tabous, ses héros, ses hantises.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Frédéric Rivine.
Bonjour Sonia.
Bonjour Frédéric.
Je suis content de venir parler à la TSF aujourd'hui.
Et pourquoi la TSF? Parce que vous vous rebasculez dans l'immédiat.
Je suis contaminé par le village français.
Après toutes ces années de travail.
J'ai été vieilli, moi aussi.
Vous êtes très en forme. On est deux ce matin, comme ça, ça tombe bien. Donc vous avez commencé en 2005.
On a commencé en 2005, voilà. Avec Emmanuel Dossier et Philippe Tribois. Oui.
Voilà, qui sont vos producteurs. Donc ça y est, vous arrêtez. J'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure devant Nicolas Demorand. J'ai dit que ça commençait ce soir. C'est sans doute mon impatience et celle des très 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 nombreux téléspectateurs qui vous suivent depuis 8 ans. Donc Le Village Français, c'est jeudi soir sur France 3. C'est les 6 derniers épisodes. Si vous n'avez pas vu les 6 précédents épisodes de cette 7e saison, ils sont disponibles gratuitement sur le site de France 3 TV. Est-ce qu'il y a un personnage qui va vous manquer plus que les autres, à vous, scénaristes?
Oh, je crois que non, je suis un peu dans tous les personnages, donc ils vont tous me manquer un peu seulement.
Il y a un personnage dont vous avez particulièrement aimé pétrir la matière, qui vous a offert des fils.
Ouais, c'est Daniel Larcher.
C'est Daniel
Larcher. Le personnage historiquement le plus original de la série, quand même.
Le maire de Villeneuve. Frappé d'indignité nationale, médecin.
Voilà. L'idée, c'était d'identifier le public à un collabo, ça n'avait pas été tellement fait, donc voilà. C'est lui le personnage qui est quand même le plus emblématique de la série à mes yeux.
Et puis vous me disiez aussi avant de démarrer l'écriture du village français, vous avez rencontré beaucoup de survivants. D'ailleurs, la dernière génération de ces survivants.
En 2005, j'avais fait une centaine d'interviews, effectivement. Un peu plus de trois quarts sont maintenant décédés, 12 ans plus tard. Voilà.
Comme Simone Veil, en fait, qui est morte cette année.
Que elle, je n'ai pas interviewé, mais il y a quand même une génération, effectivement.
Voilà, qui s'éteint, une page qui se tourne.
Il n'y a plus beaucoup de compagnies dans Libération, il y a une page qui se tourne.
Voilà. Alors, un petit peu d'actu des médias, et puis on va continuer à parler séries avec Romain Nigita. Publication explosive par Le Monde hier d'un document de travail en circulation au ministère de la Culture. Des pistes pour réformer l'audiovisuel public. En gros, supprimer France O, la chaîne des Outre-mer, basculer les chaînes jeunes que sont France 4 et Le Move chez nous sur le numérique, fusionner les bureaux régionaux de France Bleu et de France 3, donc supprimer au passage les bureaux de France 2 en région, enfin regrouper toutes vos chaînes et radios publiques dans une même holding façon BBC à l'anglaise. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, furieuse, porte plainte et rappelle qu'il ne s'agit que d'un document provisoire qui n'avait pas donc vocation à être connu du grand public. Rappelons que ces divulgations interviennent après quelques 80 millions d'euros de coupes budgétaires imposées à Radio France et France Télévisions. Vous avez peut-être une réaction, Frédéric Crivine, à ce qui est en train de se
dessiner. Les auteurs et les producteurs de fiction et en général de la culture, on n'aime pas beaucoup les coupes budgétaires.
Non.
Surtout quand on affirme avoir des ambitions en matière culturelle.
Voilà.
C'est clair.
En matière culturelle, mais aussi en matière de création audiovisuelle. On peut peut-être rappeler que France Télévisions est le premier promoteur et financier de la création audiovisuelle en France. Et c'est particulièrement vrai pour vous, scénariste de série.
Oui, enfin, de toute façon, le service public a une obligation.
Absolument.
De diversité culturelle. C'est pas simplement de faire des bonnes choses. Il faut qu'il y ait des choses de genres différents, de formats différents, mettant le public dans des positions différentes. Et pour ça, il faut de l'argent.
Pour ça, il faut de l'argent. Ça va, Romain Nigita?
Ça va très bien, et vous, Sonia?
De retour de Londres, où il s'était plongé dans Black Mirror. Transfert sur Arte, ça commence jeudi aussi. Donc, ça sera en concurrence directe avec Le Village Français. Comme ça, il y aura de la pluralité, il y aura de la diversité. Voilà. C'est déjà visible en avant-première et en intégration sur le site web d'Arte, une nouvelle série de science-fiction à la française.
Transfert, c'est quoi? C'est une grève du cerveau?
Non, c'est bien mieux que ça. Là, on parle de grève totale. On est parvenu à isoler une molécule qui permet de séparer l'esprit du corps. C'est ton esprit qui a été greffé dans le corps de quelqu'un d'autre.
Dans un futur très proche, ce processus de transfert est possible, mais il est hors la loi, car il y a des effets secondaires, des crises de rage, qui mènent certains transférés au meurtre. C'est ce que découvre malgré lui le héros de la série, un père de famille, ébéniste, tombé dans le coma avant la mise au point de cette technologie. 5 ans plus tard, il se réveille dans le corps d'un flic de la brigade de traque des transférés illégaux.
Alors c'est bien ou c'est pas bien ?
C'est assez solide, hein, même si ce postulat n'est pas très original. Moi j'ai notamment pensé à la sympathique série américaine Un agent très secret, mais toutefois transfert remet ce concept au goût du jour. Les transférés illégaux sont traqués et parqués dans des camps tels des migrants. Les autorités religieuses s'activent contre ce qu'elles considèrent comme un affront à l'âme. Et le marché des transferts donne lieu à un trafic de corps, à mi-chemin entre le trafic d'organes et l'esclavage. Au final, c'est un effort encourageant pour la science-fiction française.
Et ben voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que les Américains et les Britanniques pour faire de la science-fiction. Rappelons quand même que la France est la patrie de Jules Verne, de Barjavel et de Moebius. Seulement voilà, le genre, en fait, il avait quasiment disparu hein, de la production française depuis au moins les années 80.
Et il revient en force depuis 2 ans seulement. Il faut dire qu'entre-temps, les Danois ont prouvé avec Real Humans et les Anglais avec Black Mirror que la science-fiction ne se limitait pas à des ersatz de la guerre des étoiles et qu'elle n'exigeait pas nécessairement des budgets faramineux.
Voilà, Real Humans, c'était aussi à voir sur Arte et c'était l'histoire de ces robots extrêmement troublants tant ils étaient androïdes et ressemblants. Donc voilà, des ersatz de la guerre des étoiles et puis des gros budgets, c'était l'argument des producteurs français. Donc finalement, ils s'y sont mis. Ils ont quand même réussi à relever le gant ou moyennement.
Alors, difficilement.
Plutôt moyennement, c'est ça.
Sur Arte, on avait déjà vu Trépalium qui présentait un monde futuriste divisé entre la plèbe des chômeurs et l'élite dotée d'un emploi. Malheureusement, des trous béants dans l'intrigue et une direction artistique complètement larguée. Une série qui tombait la tête la première dans tous les pièges. Et puis malgré toute la sympathie que l'on peut avoir pour Olivier Marchal, sa section 0 sur Canal+, avait elle aussi explosé en plein vol. Un simple braco futuriste et totalitaire assez caricatural.
Épouvantable même, oui.
Et puis, nouveau candidat il y a quelques mois, la série spatiale Mission sur OCS, avec son vaisseau d'exploration posé sur la planète Mars. Un visuel époustouflant, vraiment, étant donné les faibles moyens engagés, mais une intrigue un peu mince pour ces 10 épisodes.
Bon, il est très très dur, Romain Nigita, donc il n'y avait vraiment rien à voir d'intéressant en science-fiction française à part transfert.
Eh bien si, mais c'était sur Internet. Ouais. La série de science-fiction française la plus innovante et la plus enthousiasmante a eu pour titre Le Visiteur du futur. Un mélange d'humour et d'imagination sans limite, la web-série de François Descraques est vite devenue la coqueluche de la toile. Et ce garçon est, selon moi, le porte-étendard d'une nouvelle génération de créatifs.
Voilà, donc François Descraques, l'homme à suivre sur Internet, mais peut-être pas seulement.
Maintenant sur France 4.
Maintenant sur France 4. Et transfert sur Arte à partir de jeudi. C'est une série qui est signée de qui ?
Patrick Benedek et Claude Scasso.
Merci Romain et à la semaine prochaine. Ah oui, non, une petite dernière info en matière de marché des séries. Est-ce que vous savez, Frédéric Krivine, que Amazon vient de signer l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien qui avait déjà été portée au cinéma par Peter Jackson. Voilà, ça fait envie, non, quand même ?
Non.
Non, très bien.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Bon bah donc retour à la TSF.
Retour à la TSF,
Sonia. Retour à la TSF. Vous êtes... Frédéric Krivine, donc le scénariste du Village français. Une dernière saison finement projetée dans l'avenir, c'est-à-dire finement articulée entre le passé et l'avenir. C'est toute la question de l'héritage de la guerre, de la façon dont, je l'ai dit tout à l'heure, la mémoire travaille l'essor d'une société et habite ses individus.
J'ai payé mon écho au devoir de mémoire.
Oh, le devoir de mémoire, il dit. Idiote.
Pourquoi ? Moi, je trouve ça très bien. Aujourd'hui, les gens oublient tout.
Heureusement, Françoise, pas de vie possible sans oubli.
Un psy vous dirait pas de vie possible sans mémoire.
Oh, il faut les deux.
Voilà, vous avez décidé de les vieillir, vos personnages, de les grimer, de les faire avancer dans l'avenir. Vers un destin, la question, tout l'enjeu de la question, puisqu'on va partir d'abord de la question individuelle avant de parler de la question de notre société d'après-guerre, notre société française d'après-guerre. Tout l'enjeu est de savoir si ce destin est travaillé par le souvenir de la guerre. Si...
Le premier épisode s'appelle « Prisonnier de guerre » et en fait, c'est la situation des personnages, de la majorité des personnages de la série. Ils vont rester dans les 60 ans, on va les voir plus ou moins certains d'entre eux. 60 ans plus tard, 40 ans plus tard, 20 ans plus tard, il reste d'une certaine façon prisonnier de guerre.
Alors, certainement, oui. La richesse d'une très très longue série comme celle que vous achevez aujourd'hui, c'est qu'elle peut s'auto-référencer en permanence, et ce ne sera pas la première fois qu'elle s'auto-référencera là dans les 6 derniers épisodes. C'est quelque chose qui a été récurrent et sur lequel vous avez déjà beaucoup travaillé. Donc finalement, vos personnages sont devenus d'authentiques porteurs de mémoire parce qu'ils ont inscrit leur histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H, Frédéric Rivine.
Oui, mais la série porte beaucoup plus effectivement sur les destins individuels et essayer de faire sentir via le concept de micro-histoire que Ginsburg a popularisé, de faire sentir des mouvements collectifs au travers d'intrigues qui semblent très privées et personnelles.
Très privées et très personnelles, oui.
Donc on essaye de faire passer, j'ai essayé de faire passer, dans la collaboration avec Jean-Pierre Azéma, l'historien, et puis Hélène Bellet, la consultante hystérique.
Hystérique?
Il y a un consultant historique et une consultante hystérique. Ouais. Donc j'ai essayé de faire passer justement cette espèce de mouvement, ce mouvement de va-et-vient entre la grande histoire et les petites histoires.
Alors vous avez par exemple l'une des héroïnes du village français, je dis héroïne parce qu'elle est l'un de vos personnages principaux et c'est comme ça qu'on dit en fiction, qui vient témoigner devant des collégiens, on lui tend le micro, on lui dit ça vous fait quoi d'être une héroïne au sens historique du terme, et elle répond je ne suis pas une héroïne, je suis simplement la dernière qui reste.
Ben ça c'est aussi un écho à ce que je décrivais tout à l'heure sur la disparition des témoins, y compris tous ceux que j'ai interviewés. Effectivement, le statut d'héroïne, il y a une ambiguïté parce qu'elle dit qu'elle est quelqu'un d'ordinaire et qu'elle n'est pas une héroïne. Mais en fiction, on prend des gens ordinaires à qui on leur fait arriver des choses et ils deviennent des héros, en tout cas aux yeux du public. On a beaucoup joué sur cette espèce d'entre-deux qui a, par exemple, le public français de 2017, il sait qu'il y a Auschwitz, les personnages, ils savent pas.
Oui.
Et on est toujours dans cet entre-deux qui crée une tension particulière.
Alors histoire et mémoire, justement, la mémoire, on le sait, en histoire est une matière très mouvante. 1975, Hortense Larcher devenue peintre, peut-elle tout figurer de ce qu'elle a vécu pendant la guerre ?
Madame Larcher, j'admire beaucoup votre travail. Je me suis battue pour cette exposition dont personne ici ne voulait.
Mais
ce tableau, je peux pas l'exposer.
Vous plaisantez, n'est-ce pas ?
Madame Larcher, en 1975, on ne peut pas exposer le portrait d'un haut responsable SS qui a tué de sa main, déporté, torturé beaucoup de gens ici.
Ah oui, on peut exposer la pute du Bosch, mais pas le Bosch.
Je vous demande pardon.
Non. Cette exposition n'aura pas lieu sans ce tableau.
1975, c'est l'année de ma naissance, Frédéric Rivine. Non, 1975, c'est-à-dire il y a encore des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas montrer, parce que 1975, ceux qui ont souffert sont toujours là.
Ils sont toujours aux affaires. D'ailleurs, le village français s'est fait parce que les gens qui avaient été résistants, collaborateurs ou attentistes pendant la guerre n'étaient plus aux affaires. Je veux dire, il n'y a pas eu de pression avant. C'est simplement que des tas de sujets se sont décongestionnés une fois, en gros, que Mitterrand est parti. Parce que Mitterrand était le dernier grand acteur de la guerre aux affaires.
Et alors justement, il y a dans l'un des derniers épisodes une discussion entre Daniel Larcher, qui est aussi médecin, et un gendarme qui lui raconte comment il a vécu la fin de la guerre. Lui, il a été collabo, mais enfin finalement, il a un peu aidé la résistance. Et puis il a récupéré pour ça une médaille. Larcher lui répond comme quoi entre ceux qui ont eu une médaille et ceux qui ont été frappés d'indignité nationale, ça ne s'est joué à pas grand chose. Et c'est là qu'on voit très bien dans le village français que l'histoire n'est pas qu'une succession de faits et de dates.
Oui, c'est une difficulté, on va dire, politique de cette série, c'est de montrer à la fois que les destinées personnelles dépendent de très très peu, sans laisser entendre que tout se vaut et que c'est une espèce de grand mix et de hasard. Non, c'est pas complètement un hasard, il y a des prédéterminants qui amènent des personnages, des personnes à aller plutôt vers l'extrême droite ou vers la résistance, mais il y a aussi beaucoup de petits événements quand vous prenez un micro-destin, une personne, qui peuvent faire, comme on le voit dans La Combe-Lucien par exemple, qu'un individu bascule. Et comme en fiction, le destin d'un individu prend tout de suite une valeur collective et générale, c'est là où c'est quelque chose de délicat à manier.
Alors j'aimerais qu'on parle du traitement que vous réservez au Parti communiste français à l'épreuve de l'après-guerre, qui est à mon avis extrêmement intéressant et qui met en lumière beaucoup de choses dont on parle finalement relativement peu. Il y a le retour des camarades qui sont passés par l'URSS et qui racontent ce que les autres ne veulent pas entendre, c'est-à-dire c'était l'enfer. Là-bas, c'était l'enfer, qui raconte les déportations.
Oui, enfin, il raconte les... Max, un ami Un ami de Marcel, Larcher, maintenant mort, et un ami d'Edmond, raconte rapidement ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu comprendre des grands procès des années 30 et des exécutions massives qui ont eu lieu. Bon, bah ça, c'est une réalité, puisque dès 1946, il y a le procès Kravchenko.
C'est ça.
Où quelqu'un raconte dans un livre ça, et où évidemment les communistes français sont vent debout, poursuivent en justice ce monsieur, il y a un grand procès. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui n'était pas connue du tout, c'est comment est-ce que le PCF, jusqu'à ce qu'il quitte le gouvernement en 47, est vent debout pour la reconstruction et donc contre les grèves. Ça, c'est quand même assez amusant. Alors qu'on connaît les grandes grèves de 47.
Amusant, pas forcément, parce que justement, les grèves, la grève, c'est l'un des fils rouges, hein, parce qu'il y a toute une question sur la reconstruction sociale, hein, après la guerre, les grands acquis sociaux de l'après-guerre. Mais la grève, ça va être l'un des thèmes majeurs de ces derniers épisodes. Et on voit absolument comment le PCF est à l'œuvre à l'heure de la campagne électorale. C'est le retour de la démocratie aussi, cette période que vous traitez.
Oui, c'est ça. On n'est plus dans la question de vie ou de mort.
Non.
On est dans la question normale, je dirais, en temps de paix, de clientélisme, de rapport de pouvoir, de... Et c'est effectivement très dur pour certaines personnes qui psychologiquement sont encore, comme était Marie Germain par exemple avant d'être pendue, qui sont restées finalement dans une logique comme Anselme, résistant maintenant qui travaille à l'usine, qui sont restées dans une logique où ils espéraient un autre monde, une autre France. Et ils vont pas l'avoir.
Ils vont pas l'avoir. Et puis, il y a la question des comptes que demandent les fils à leur père, ceux qui étaient aux affaires à l'époque, comme Daniel Larcher, maire de Villeneuve. Il y a des passages, des tirades fracassantes. On s'en foutait des Juifs. On s'en foutait des Juifs.
À l'origine, j'avais prévu de vraiment très très peu parler des Juifs à Villeneuve, bien qu'il y ait 72 heures, parce que dans une ville comme Villeneuve, donc entre le village et la sous-préfecture du Jura, il n'y avait pas beaucoup de Juifs, et donc la question juive est une question tout à fait secondaire, quand on lit tous les témoignages. Bon, après, un ensemble de choses, y compris l'histoire de ma famille, puisque j'ai dans la famille maternelle, il y a eu énormément de déportations en Pologne, on fait que j'ai quand même eu envie, finalement, que la question juive soit un peu plus abordée qu'elle aurait dû l'être sur un plan, disons, linéaire.
Oui.
Et effectivement, le poids d'Auschwitz et de ce qui est arrivé aux Juifs, du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, a considérablement changé entre les années 50-60 et aujourd'hui.
C'est ça.
Mais c'est dilué. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en 46-47, c'est dilué. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience.
Non.
Il y a eu énormément de morts et de massacres et de trucs, et parmi tout ça, il y a ce qui est arrivé, les Juifs s'en sont pris plein la gueule. Mais c'est pas, voilà, les Juifs s'en sont pris plein la gueule, et puis il y a eu 80 000 enfants perdus, et puis il y a eu 100 000 soldats tués en 40.
Alors il y a seulement deux séquences qui se déroulent en Israël, où on voit
en Palestine,
donc on voit deux rescapés qui prendront cette voie-là, ceux de la construction d'Israël. Mais finalement, voilà, pour le coup, c'est un fil que vous développez très très peu, de la même manière que le retour des rescapés des camps, leur silence qui a pesé sur la France, et pas seulement sur la France pendant 20 ans, c'est des choses que vous développez extrêmement...
Bah, on n'en parle pas trop, parce que dans la communauté des personnages, encore une fois, la question juive, elle est périphérique. Elle est vraiment périphérique. Donc on en parle quand même, parce qu'on prend quand même deux personnages qui ne sont pas deux personnages principaux, Rita et Ézéchiel, et on voit leur destinée en train d'essayer de construire un État juif en Palestine.
Le village français, c'est jeudi et c'est sur France 3. Merci beaucoup Frédéric Krivine. Et puis il y a tout un tas de livres qui viennent de sortir sur le sujet. On vous conseille l'histoire au risque de la fiction, Bernard Papin aux éditions Atlante. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sonia de Villers.
Les mères, les filles, ça va friter au standard de France
Comment
Inter.
Comment ça se passe avec votre mère?
Vaste sujet, et avec la vôtre Ali?
Très bien, mais je ne suis pas une fille.
Je l'embrasse, maman, je t'embrasse.
Les relations mère-fille entre bienveillance et rivalité. Racontez-nous vos histoires au 01 45 24 7000.